Rudolph, hein? On amène dans la chambre dédiée un écran projecteur. Des baffles. Un magnétophone. Un projecteur. Rika va s'asseoir à côté de Didier. Et il fait mettre une petite table à côté de lui. Où se trouvent des piqûres déjà préparées, du coton avec de l'alcool. Et Rika dit à Didier, nous allons vous faire passer des films horribles, prêtés par la police. Ce sont des assassinats filmés. Les assassinats sont véridiques. Il n'y a aucun trucage. Ce genre de film est vendu sous le manteau, très cher, et plus le film est horrible, c'est-à-dire plus le crime est terrible, plus le film coûte cher. L'on tue d'une façon sadique, car il faut que ça dure et qu'il y ait du spectacle. Des enfants, des adultes, des prostituées, des gens que l'on ne veut pas. En général, les gens ne sont pas au courant. Ils sont invités chez quelqu'un pour une chose ou une autre. Durant la soirée, on leur fait de plus en plus de supplices jusqu'à la mort. Au début, la personne croit à un jeu et petit à petit a envie d'arrêter. Elle veut s'en aller. Puis elle prend conscience, prend peur. Le supplice devient de plus en plus trouble et long, car plus le film est long, plus il est cher, jusqu'à la mort finale qui doit être d'une atrocité horrible. Le producteur de ces films garantit la vérité de ces scènes et peuvent le prouver en montrant le cadavre ou un bout de la personne. Ces films peuvent être commandés et la victime peut être désignée par l'acheteur du film. Comme ce genre de film coûte très cher, car ils sont la preuve d'un crime. Ils ne peuvent être achetés que par des gens très fortunés. Vous allez me dire que les Romains, avec les jeux du cirque, faisaient la même chose. Oui, mais ils voyaient moins le crime et les victimes, car ils n'avaient pas le cinéma pour voir en gros plan. Didier lui dit, et dire que j'aurais peut-être été riche en filmant mes opérations. Riquin lui dit, oui, mais on aurait pu vous faire chanter. Il y a aussi des policiers qui achètent ou veulent de ces films pour prendre les gens sur les fêtes. Mais nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour parler affaires, mais pour vous guérir de certains de vos instincts. Vous allez voir ces films et on va vous injecter du produit pour que ce que vous voyez vous soit insupportable. Vous êtes d'accord ? Didier lui dit. Vous ne ferez pas trop mal ? Non, nous allons y aller par étapes. Il lui enlève son masque pour lui mettre sur la tête des fils d'électrocardiogramme et dit, vous pouvez lancer le premier film. Et apparaît sur l'écran la première image d'un film. Une pièce, une jeune femme blonde entre. Un homme est avec elle. Il la fait asseoir et boire. Parle de choses et d'autres. Le plan est fixe et bouge, large. La caméra bouge malgré que le plan soit fixe. Et le plan est large. Il montre toute la pièce. L'homme essaie d'embrasser la femme, qui se défend un peu. Il essaye encore une seconde fois. Elle se débat plus, mais en souriant. Le film semble ennuyer Didier. Éteint, tient la piscure. L'homme va l'embrasser. Elle se défend. Lui va plus fort. Elle la fait tomber à terre. Il est sur elle. Et tiens, il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. Il lui fout le poing dans la bouche et l'enfonce profondément. La femme est violette. Par Narama. Ensuite, la caméra est contre eux. On entend que dit le caméraman, vas-y, vas-y, déshabille-la et découpe-la en morceaux. La femme panique, panique, mais ne peut rien, elle est contre l'homme. La sienne devient horrible. La caméra bouge dans tous les sens. L'homme a pris un couteau de cuisine. Riquin pique Didier. Il commence à bander de plaisir. Le produit lui donne une grande douceur, l'or au bras et dans tout le corps. À chaque fois que Didier a du plaisir, on le pique. Le film dure 3 heures. 3 heures d'images, de scènes insupportables. À la fin, Didier a de la nausée. Entre le plaisir inassouvi et la douleur, il est épuisé, en sueur. Commence les séances une fois par jour avec des films de plus en plus horribles. Didier est épuisé à la fin de la semaine. À ses assistants dans son bureau. Il faut le laisser comme ça pendant quelque temps. Plus il sera affaibli, plus le traitement fera son effet. Un médecin demande, est-ce que vous croyez qu'il va devenir un autre? Riquin lui dit, il faudra bien. Thank you. Durant plusieurs semaines, on lui fait son traitement. Et puis, à force de lui faire ce traitement, le cerveau s'habitue et ça ne fait plus d'effet. Alors, on augmente la dose. Mais l'échec est là. Il prend de plus en plus de plaisir à voir ses films. Et il a de plus en plus le désir de passer à l'acte. On l'attache bien, lui donne des doses maximales de tranquillisants. Mais au bout d'un moment, on arrête le traitement. Ricain dit, s'il n'y a pas d'amélioration, nous allons être obligés d'arrêter et de l'opérer, de lui changer le cerveau. Le médecin lui dit, mais il ne sera plus le même homme, il sera mort. Ricain lui dit, on peut lui enlever que la partie du cerveau qui lui donne ses pulsions de crime, de mal. Et lui laisser le reste. Comme cela, il restera le même homme, mais avec un bon caractère. On lui enlève de son cerveau ce qui ne va pas, et on lui greffe à la place des cellules de plusieurs scènes. Après son opération, son cerveau ne pourra plus répondre aux pulsions du mal. Il sera même incapable de se battre et de voir un match de rugby. Le médecin lui demande, mais sera-t-il lui ? Ricain lui dit, sera lui, sans ses mauvaises impulsions, un enfant non éduqué. Pour qu'il puisse se tenir tranquille, on l'éduque. Là, c'est la même chose. On ne dit pas qu'un enfant éduqué n'est plus le même. On dit qu'il est poli, etc. Là, on fait ça ou on le tue ou on lui donne chaque jour une femme à déchiqueter pour qu'il puisse jouer au médecin. Je ne suis pas le bon Dieu, mais en attendant, nous allons attendre un peu. Peut-être que le traitement que nous avons fait va avoir faire effet à retardement. Nous le laissons tranquille. Ensuite, nous lui ferons des tests pour voir si tout va bien. Et ensuite, nous prendrons des décisions. D'accord? Oui. Le jour passe. De plus en plus de personnes font don de leur ADN à leur mort, à des amis, amour, famille, à la science, à des musées, des écoles, états, etc., etc. C'est devenu la grande mode, car chacun se dit que son ADN, c'est ce qu'il a de plus précieux. Dans des villes du monde, et même dans cette vieille ville lyonnaise, l'on ouvre des musées ADN d'hommes célèbres. Ils sont mis dans un bocal à côté de la photographie de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont fait. L'on brûle les corps, mais l'on garde l'ADN. Les ordinateurs d'hommes célèbres, où se trouvent À l'intérieur de l'ordinateur, l'ADN de l'homme célèbre se vend comme du petit pain. On se bat même pour avoir l'ordinateur ADN de certains hommes célèbres. Plus l'homme est célèbre, plus l'ordinateur coûte cher. Et c'est des ordinateurs de grand luxe avec des cadres dorés pour l'écran. Les boutons sont en or massif. Les ordinateurs sont signés et datés, comme pour une œuvre d'art. Et en plus, bien entendu, le numéro de série est un papier d'authenticité signé d'un huissier de justice. Si on achète l'ADN de Freud, il ne faut pas que ce soit celui du biscotquet du coin. Surtout que ça coûte très cher, une petite fortune, beaucoup plus cher qu'un Picasso. Certaines personnalités, avant la mort et même dans leur plus jeune âge, l'on se bat pour avoir leur ADN. Des milliers de jeunes filles, peut-être même des millions, dans tous les pays, veulent avoir l'ADN de Leonardo DiCaprio. Alors, une bourse est ouverte sur Internet pour les ADN futurs. Et c'est celui qui aura le plus d'actions qui aura, à la mort de la personne, son ADN. La maison de jeunes tout a l'exclusivité de ce genre d'ordinateur. Il y a bien entendu des vols d'ADN. Mais l'ADN de la personne est une marque déposée. Le voleur ne peut la revendre sur le marché. Comme la personne qui a volé ne peut rien faire de son ADN, elle ne peut même pas le sortir de sa cachette, car dès que l'on sait qu'un ADN a été volé, on met en route un détective d'ADN qui reconnaît immédiatement l'ADN. Un détective et un détecteur d'ADN. Alors, la plupart du temps, il le redonne à Genetou pour qu'ils en fassent un ordinateur. Genetou le fait, mais avec une forte somme et papier comme quoi il a été volé. L'ADN est devenu quelque chose de précieux, comme de l'or. Au fond d'un parc, la maison du 18e. Elle a deux étages. Elle appartient à la famille Leclerc. Il est 21h. La famille est réunie au salon, qui est une très grande pièce meublée Louis XV. Il y a la mère qui est assise dans un fauteuil, femme qui semble grande, mince, cheveux blancs. Elle porte une robe de laine rouge avec au-dessus un châle gris. À côté d'elle se trouve son fils aîné, Henri, 35 ans, grand, mince, cheveux châtains, visage osseux, lunettes d'écaille, habillé d'un costume gris. En face d'eux se trouve la jeune sœur d'Henri, Charlotte. 30 ans, grande, mince, cheveux châtains, est habillée d'une jupe à carreaux marron et beige, d'un chemisier blanc et d'un châle marron foncé. À terre se trouve le fils de Charlotte, 10 ans, mince, châtain, beau visage, short et pull marine. Il lit tranquillement. La mère demande. « Tu sais quand ta femme vient ?» Henri lui répond. « Dès qu'elle a fini son travail, elle ne va pas tarder. » La mère lui dit. « J'aime pas que ta femme travaille. Chez nous, les femmes n'ont jamais travaillé. » Henri lui répond. « C'est pas vraiment un travail, mère. Elle aide à l'hôpital. Oui, mais elle est tout de même infirmière. Oui, mais juste quelques heures par semaine et en début de soirée. Comme cela, elle peut aller au bridge ou au thé chez ses amis. » Sa mère lui dit. « Elle ferait mieux, c'est de s'occuper de chez soi. » Mais elle s'en occupe, mère. Elle demande. « Et toi, ton mari vient quand ?» Charlotte lui dit. « À 23h, mère. Son avion arrive à Paris à 22h45. » La mère lui dit. « Il faudra peut-être coucher le petit. Il est tard. Il ne faut pas qu'il soit en retard pour Saint-Michel. » Charlotte se lève et dit à son fils. « Tu as entendu ce qu'a dit grand-mère. Il faut aller te coucher. » Charles-André se lève en soupirant. « J'aurais mieux aimé, c'est attendre papa. Et puis, j'aimerais aller à la maison. » Sa mère lui dit. « Tu sais bien que ce soir, je reste tenir compagnie à ta grand-mère, qui a beaucoup de peine. Allez, dis bonsoir à tout le monde et je te monte à la chambre bleue. » Charles-André lui dit. « Oh non, j'aurais trop peur. » Sa mère lui dit. « De quoi ? Il ne te mangera pas, et puis il est bien gardé. Allez, dis bonne nuit. » L'enfant soupire, embrasse tout le monde. « Bonne nuit, grand-mère. C'est vrai que tu as de la peine ? » ?»«
Oui, mon petit, mais juste ce qu'il faut. »
Et l'enfant, accompagné de sa mère, monte à l'étage par un grand escalier de pierre. Au deuxième, il longe un couloir. En passant devant une porte fermée, l'enfant dit « Ils sont toujours là ?»«
Oui, jusqu'à demain matin. »
Et la mère le mène deux portes plus loin.
« Tiens, rentre !» C'est une chambre bleue, Louis XV, avec du satin bleu au-dessus du lit. Cette chambre ne fait pas du tout chambre d'enfant. Elle a un côté froid, fait même un peu peur, un peu musée. Elle dit à son fils, « Déshabille-toi et va faire ta toilette. » C'est ce que fait l'enfant. Cabinet de toilette et attenant à la chambre. Pendant qu'il est allé faire sa toilette, la mère prépare son lit. Le lit est prêt, il est ouvert. L'enfant revient du cabinet de toilette. Il est en pyjama bleu. La mère a ouvert le lit. Il se met au lit. Il dit à sa mère, les draps sont froids et raides. Elle lui dit, ils vont se réchauffer par ton contact. Il lui dit, pourquoi grand-père n'a-t-il pas le chauffage central? Elle lui répond,
parce que grand-père trouvait que ça allait nuire à la beauté de la maison, tous ses tuyaux et ses radiateurs.
Chalandré lui dit, grand-père est un grand savant et il vit comme dans l'ancien temps.
Elle lui dit, la plupart des jeunes qui font Saint-Cyr sont de grands savants et vivent comme ton père et ton grand-père. On appelle ça la tradition.
Chalandré lui dit, moi, je vivrai dans une grande maison moderne, avec de grandes baies vitrées, la piscine, des portes qui se ferment et s'ouvrent automatiquement. Et j'aurai la télé.
Pourquoi grand-père n'a pas la télé?
Elle lui dit,
parce que la télévision est une chose qui est faite pour distraire le peuple. Les gens comme nous n'ont pas besoin de ça pour se distraire. Nous pouvons aller au théâtre, concert. Tu comprends? Il y a des choses populaires qui sont pour les gens qui ne peuvent vivre comme nous et qui ne sont pas assez cultivés pour se distraire comme nous.
Tu vois un chômeur de HLM à un concert de Mahler, voir une pièce de Monterland ou le lac des Cygnes.
Non, pour eux, il leur faut Monte Cristo, Derrick, l'Instit, de Funès, Fernandel, etc., etc. Chacun sa culture. Remarque, je ne dénigre pas, comme le font la gauche caviar, leur culture. Non, il faut bien que les gens simples se distraient comme ils peuvent. Mais il faut leur laisser leur culture et ne pas s'en occuper. Toi, tu es fils d'une famille aisée. Tu dois avoir la culture d'une famille aisée et laisser la télé aux autres. Il faut bien qu'il leur reste quelque chose si on leur prend tout.
L'enfant lui dit, mais ils ont le foot?
Elle lui dit, malheureusement la bourgeoisie cherche à s'en emparer, eux aussi, depuis la Coupe du Monde.
Allez, dors mon chéri.
Elle l'embrasse et sort de la chambre en éteignant la lumière. Elle retourne en bas au salon. Arrivée au salon, elle se rassoit.
Sa mère lui demande,
il est couché? Oui, il est un peu nerveux, c'est normal.
Sa mère lui dit,
oui, bien sûr, le pauvre chéri.
Henri dit à sa mère, et pour la succession?
Sa mère lui dit, tu veux dire l'héritage?
Oui, eh bien, il a fait un testament.
Charlotte dit,
bien entendu, mère va
rester dans la maison.
Sa mère lui dit,
non, j'ai plutôt l'intention, c'est de me retourner en Normandie.
Henri demande, tu veux la vendre?
Non, mais si l'un de vous deux la voulait.
Henri lui dit, moi je veux bien, si Charlotte n'en voit pas d'inconvénient.
Elle lui répond, oh, moi, pas du tout. Du moment que j'ai ma part et les actions de père,
la mère lui dit,
elles seront réparties entre vous deux. Pour l'entreprise aussi. Vous voulez boire quelque chose?
Charlotte lui dit,
oui, un petit quelque chose à manger aussi. Le repas sera prévu dans un quart d'heure. En attendant, je vais vous faire servir quelque chose à boire.
Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. La mère dit,
il faudra aussi aller remplacer les religieuses pour qu'elles puissent se restaurer un peu.
Charlotte lui dit,
j'irai.
Sa mère lui dit, nous irons ensemble.
On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne.
Apportez-nous à boire.
Bien, madame.
Elle sort de la pièce.
Henri dit, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du groupe Jeune Tout qui veut nous acheter l'ADN de père?
La mère lui dit, père n'avait pas prévu ce genre de choses. Je ne sais pas si ce serait correct de le faire.
Henri lui dit, à notre époque, il faut toujours penser à ce genre de choses. Le cerveau, le corps, l'ADN deviennent des produits comme les autres et qui peuvent rapporter gros. Il faut prévoir, avant de mourir, à qui l'on donne cet héritage. Pour père, par exemple, il y en a pour beaucoup plus que toutes ses actions.
On frappe à la porte. La mère dit,
entrez.
Entre la bonne, avec un bar roulant qu'elle va déposer près d'eux. La mère lui dit,
un verre de whisky.
Henri dit, pour moi, un cognac.
Charlotte lui dit, moi un jus de pomme. Et la bonne ressort.
Une fois qu'ils aient bu une gorgée, Henri dit,
alors, que faisons-nous pour cet ADN? La mère dit, je ne sais pas, je trouve très irrespectueux de découper une personne de sa famille et décider de vendre ses morceaux pour se faire de l'argent.
Henri pose son verre et lui dit,
père est mort. Et puis malheureusement se décompose. Je ne découpe pas le corps de mon père, je lui prends que son ADN.
Charlotte lui dit, si Jeune Tout t'avait demandé son cerveau, tu le lui aurais donné?
La mère fait,
oh mon Dieu, quelle horreur!
Henri lui dit, oui, et ça aurait été peut-être... Il aurait peut-être été relié à un ordinateur et aurait pu continuer à penser.
Sa mère lui dit, tu n'y penses pas. Père dans une machine, quelle horreur!
Henri soupire et lui dit, ça aurait permis à père à continuer à penser. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Père n'était pas assez connu pour le faire. Mais pour l'ADN, là, on peut le vendre et on nous en fait une offre un bon prix.
Charlotte lui demande, combien?
Il lui dit, très cher. Il nous donne 700 000 plus intérêt sur bénéfice.
Charlotte lui dit, eh bien, on veut plus cher, mort que vivant. Et pour le partage, comment?
Henri lui dit,
en 3 parts égales. La mère lui dit,
je ne veux pas qu'on touche au corps de mon pauvre Auguste.
Henri lui dit, il n'est plus le tien malheureusement, mère. Ses biens et lui-même sont devenus divisés en parts égales. Si ses enfants veulent le vendre, mère, même si tu n'es pas d'accord, ce sera fait.
La mère lui dit, tu devrais avoir honte de vendre ton père. En tout cas, moi, je le refuse.
Henri lui dit, tu n'as pas à nous refuser quoi que ce soit. Nous sommes tes héritiers directs. Tu ne peux pas nous déshériter et son corps et le tien fait partie de l'héritage.
La mère se lève et lui dit, quelle honte! À notre époque, nous vivons. Si les enfants vendent le corps de leurs parents pour se faire de l'argent, c'est le retour au cannibalisme. Les enfants mangent leurs parents.
pour se nourrir. Quelle honte !»
Charlotte lui dit.
« Oui, c'est en quelque sorte cela. Mais au lieu de les manger, on les vend pour se faire de l'argent. »
La mère lui dit.
« Au point où en va le modernisme, on va peut-être être vendu avant notre mort. »
Henri lui dit.
« Mais cela se peut. Je peux signer un contrat avec Genetou pour leur vendre votre corps
et la livraison se fera à votre mort. »
L'on frappe à la porte.
« Entrez !»
C'est la bonne.
« Madame, le dîner est servi. »«
Bien, nous y allons. »
Puis elle dit à ses enfants.
« Allons manger avant de nous entre-manger. »
Et ils se lèvent et vont dans la salle à manger. Elle est meublée Louis XVI, meuble de bois blanc. Ils se mettent à table. La bonne sert un plat.
La mère leur dit, je vous préparais comme petit repas léger, comme je pensais que vous n'aviez pas bien faim.
Henri lui dit, moi je mords de faim.
Sa mère lui dit, j'en doute pas.
Henri lui dit, il faudra mère c'est me donner les diplômes et les curriculum vitae de Pierre.
Elle lui demande, pourquoi faire?
Pour l'ADN, comme ça on peut bien voir le coefficient intellectuel, tu comprends?
Sa mère lui dit,
en tout cas, Henri, je souhaite, c'est que tes enfants fassent la même chose pour toi.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Juliette Jean-Pierre.